Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Bienvenue dans votre émission Les yeux au ciel. Tout l'été, je vous propose de lever les yeux pour se perdre dans l'infiniment grand. Lever les yeux vers les étoiles pour contempler la beauté du ciel nocturne. Apprendre à se repérer dans les constellations. Apprendre à nommer et à reconnaître les étoiles. Identifier les planètes. Observer ces autres mondes infiniment lointains, infiniment complexes. Observer ce que nos ancêtres ont observé. Comprendre ce qu'ils ont au cours des âges étudié et compris pour mieux connaître notre univers et sa beauté. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier une étoile ô combien utile que l'on appelle Polaris, c'est l'étoile polaire. Cette étoile brillante est l'unique point fixe du ciel autour duquel semblent tourner les autres étoiles. Cette étoile indique le nord. Elle est visible toutes les nuits dans notre hémisphère nord, à toute heure et en toute saison. Elle sert à se repérer. Dans l'Antiquité européenne, en l'absence d'instruments de mesure et de navigation, les marins comptaient sur leur expérience et sur l'expérience de leurs prédécesseurs en suivant des carnets de route, appelés des journaux de navigation, qui répertoriaient précisément les écueils, les hauts fonds ou encore les caps difficiles à franchir, afin de pouvoir guider leur navire à bon port. Ces carnets de route, que l'on appelle les périples, sont de véritables sommes d'observations effectuées par des générations de navigateurs qui donnent une description très détaillée des côtes de la Méditerranée. Mais lors des traversées en haute mer, plus ou moins longues, le pilote du navire ayant perdu de vue le littoral devait alors compter sur lui-même pour déterminer sa route. Faute d'instruments, les anciens recouraient à la pratique de la navigation à l'estime, qui consiste à évaluer au mieux la direction suivie et la distance parcourue. De jour, le marin naviguant en haute mer pouvait s'orienter grâce au soleil, à condition de pouvoir se souvenir de la direction du levant et du couchant. De nuit, on s'oriente grâce aux étoiles, tel Ulysse, se dirigeant grâce aux Pléiades, à la Grande Ourse, ou à Arcturus, l'étoile la plus brillante du Bouvier. Il est donc très important pour eux de savoir se situer. En géographie, on utilise les coordonnées pour pouvoir se situer. Deux valeurs permettent de savoir où on est sur la surface du globe, la latitude et la longitude. La latitude, c'est la mesure angulaire qui indique la distance d'un point donné par rapport à l'équateur terrestre. L'équateur, c'est une ligne imaginaire située à mi-chemin entre le pôle nord et le pôle sud. Il est défini comme ayant la latitude 0 degré. L'équateur sépare notre Terre en deux hémisphères, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Les latitudes sont donc des angles mesurés en degrés allant de 0 degré à 90 degrés, vers les pôles nord ou vers les pôles sud. La latitude est donc un angle formé par le point, le centre de la Terre et l'équateur. Par exemple, Paris a une latitude de 48,8 degrés nord, tandis que Sydney a une latitude d'environ 33 degrés sud. Mais comment, en pleine mer, se situer quand rien n'est visible à l'horizon? Pour cela, les marins s'aidaient des étoiles. Car le ciel change d'heure en heure au cours des saisons, mais aussi en fonction de l'endroit où l'on se trouve. En effet, notre Terre est une sphère, et en fonction de l'endroit où on se trouve, on ne verra pas les mêmes étoiles au même moment. Les habitants du pôle Nord ne voient pas les mêmes étoiles que les habitants du pôle Sud. Alors, les étoiles peuvent nous aider à connaître soit l'heure, soit le jour, soit l'endroit où nous nous situons. Pour en revenir à nos marins, ils avaient des cartes du ciel, connaissaient le jour et l'heure. Ils pouvaient se servir de la position des étoiles dans le ciel pour connaître le lieu d'observation. L'apparition de certaines étoiles signalait la latitude particulière et leur élévation, même approximative sur l'horizon, donnait une idée de cette latitude. Cependant, la détermination de la longitude, c'est-à-dire le déplacement est ou ouest, est beaucoup plus complexe. Connaître la longitude est pourtant crucial pour éviter les écueils et atteindre précisément une destination. Mais ça posait un problème majeur. Il n'existait pas de méthode fiable pour la déterminer avec précision, car la longitude mesure la situation d'un point d'est en ouest, et comme la Terre tourne dans cet axe, il est alors capital d'avoir une idée précise de l'heure locale afin de pouvoir connaître cette longitude. Le calcul de cette longitude est une histoire fascinante qui a captivé les esprits des navigateurs, des scientifiques et aussi des souverains pendant des siècles. L'un des premiers efforts sérieux pour résoudre le problème de la longitude a été entrepris par le roi espagnol Philippe II, qui a lancé en 1567 un concours, offrant une récompense substantielle pour quiconque pourrait proposer une méthode fiable de détermination de la longitude en mer. Alors de nombreuses propositions ont été soumises, mais aucune n'était vraiment satisfaisante. Le véritable tournant de la résolution de ce problème est survenu au XVIIIe siècle, lorsque l'horloger britannique John Harrison a développé des horloges marines très précises, connues sous le nom de chronomètres marins. Ces chronomètres étaient conçus pour garder l'heure précise en mer, ce qui permettait aux marins de comparer l'heure locale, que l'on pouvait obtenir en regardant le soleil par exemple, avec l'heure d'un endroit de référence connu, en général celui du point de départ. En mesurant la différence de temps entre ces deux emplacements, les marins pouvaient calculer la longitude avec une précision remarquable. Est-ce que c'est parce que ce sont les navigateurs britanniques qui ont commencé à utiliser ces chronomètres que le point de référence est situé en Angleterre, à Greenwich ? L'invention des chronomètres marins a révolutionné la navigation en mer et a ouvert la voie à l'exploration et au commerce à travers les océans. Les chronomètres ont été largement utilisés par les moyens du monde entier et leur précision a contribué à réduire considérablement les risques de navigation, améliorant la sécurité des voyageurs et aussi des cargaisons en mer, laissant aussi la voie à la découverte et à la fréquentation de l'ensemble du globe. Est-ce que c'était ça le début de la mondialisation ? L'histoire du calcul de la longitude, c'est un exemple fascinant de la façon dont la persévérance, l'innovation et aussi la collaboration entre scientifiques, inventeurs et marins ont conduit à des avancées majeures dans notre compréhension du monde et dans notre capacité à naviguer grâce aux mers à travers tout le globe. Aujourd'hui, bien que les technologies modernes aient rendu le calcul de la longitude beaucoup plus simple et beaucoup plus précis, l'héritage des pionniers de la navigation maritime continue d'inspirer et de fasciner ceux qui s'intéressent à l'exploration des océans. Il est à noter que les Européens ne sont pas les seuls à naviguer à l'aide des étoiles. Dans le Pacifique aussi, les peuples marins se déplacent en regardant le ciel. Les ancêtres des Polynésiens, les Lapita, partirent de ce qui est aujourd'hui Taïwan et s'installèrent dans l'Océanie lointaine, entre 1100 et 900 avant notre ère. Bien qu'il existe des preuves de la présence des Lapita dans l'archipel de Bismarck dès 2000 avant notre ère. Les Lapita et leurs ancêtres étaient d'habiles marins. Ils mémorisaient les instructions de navigation et transmettaient leurs connaissances par le biais du folklore, des héros culturels, des histoires orales ou des chansons. Au-delà de son utilité pratique, l'étoile Polaris a également été une inspiration pour de nombreuses cultures à travers le monde, qui lui ont attribué des significations symboliques et mythologiques assez profondes. Notre culture est baignée de mythologie grecque, alors vous allez beaucoup m'entendre parler cet été. Dans la mythologie grecque, Polaris est associée à Artémis. C'est la déesse de la chasse et de la lune. Elle symbolise la beauté et la puissance féminine. Dans d'autres cultures, Polaris était vue comme une étoile guide, une lumière céleste qui montrait le chemin aux voyageurs perdus et aux âmes en quête de direction dans l'au-delà. Les peuples autochtones d'Amérique du Nord ont également tissé des récits et des légendes autour de Polaris, la considérant comme une étoile sacrée, qui veillait sur eux, qui les guidait pendant leur voyage, leur migration à travers des vastes territoires de leur continent. Pour ces communautés, Polaris représentait une connexion profonde avec le cosmos et un lien spirituel avec leurs ancêtres et leurs traditions séculaires. Cependant, il est intéressant de noter que ce n'est pas toujours l'étoile polaire qui a joué ce rôle primordial dans l'histoire de l'astronomie et de la navigation. Au fil du temps et en raison du mouvement de la Terre et des étoiles, différentes étoiles ont occupé cette position d'étoile polaire, chacune avec sa propre période de règne. Avant Polaris, d'autres étoiles donc ont occupé cette position d'étoile polaire. Et ça, c'est à cause d'un phénomène qu'on appelle la précession des équinoxes. La précession des équinoxes est un phénomène astronomique assez complexe qui résulte de l'interaction gravitationnelle entre la Terre, la Lune et le Soleil. Ce phénomène a été découvert dès l'Antiquité. Il a longtemps intrigué les astronomes et il a joué un rôle crucial dans l'histoire de l'astronomie. Pour comprendre la précession des équinoxes, il est essentiel de se pencher sur le mouvement de rotation de la Terre autour de son axe. Ce mouvement de rotation n'est pas parfaitement stable en raison de l'attraction gravitationnelle, c'est-à-dire de la force d'attraction, exercée par la Lune et par le Soleil sur notre planète. Cette force crée un couple gravitationnel qui tend à faire basculer l'axe de rotation de la Terre. Ce mouvement de précession est influencé aussi par d'autres facteurs, entre autres la forme pas tout à fait sphérique de la Terre et aussi les perturbations gravitationnelles d'autres planètes du système solaire. En conséquence, l'axe de rotation de la Terre n'est pas parfaitement stable, il décrit un cône autour d'un point fixe dans l'espace. Et ce cône est appelé le mouvement de précession. Ce mouvement fait que l'endroit où le chemin du Soleil coupe l'équateur céleste précède chaque année le point d'équinoxe de l'année précédente, de 50 secondes d'arc. En raison de la précession, les équinoxes se déplacent lentement le long de l'écliptique, effectuant une révolution complète en à peu près 26 000 ans. Alors c'est un mouvement très lent. Mais il a été quand même décrit pour la première fois par l'astronome grec Hipparque, au IIe siècle avant notre ère. Il a observé que les équinoxes se déplaçaient le long de l'écliptique, très lentement. Un phénomène qu'il a appelé « précession des équinoxes ». Cette découverte a révolutionné notre compréhension du mouvement de la Terre et du système solaire. La précession des équinoxes a également des implications sur les calendriers, sur les traditions culturelles. Par exemple, le zodiaque occidental est basé sur les positions des équinoxes et des solstices, qui varient très lentement en raison de la précession. De même, certaines civilisations anciennes, comme les Égyptiens ou les Mayas, ont construit des temples et des observatoires pour suivre le mouvement des équinoxes. En raison de ce mouvement, avant 3000 avant Jésus-Christ, c'est l'étoile Tubane de la constellation du Dragon qui était l'étoile polaire. C'est elle qui pointait le pôle nord céleste. Tubane était une étoile brillante, facilement repérable dans le ciel nocturne ancien. Et les anciennes civilisations, comme les Égyptiens, l'utilisaient comme un guide pour leur navigation et l'alignement de leurs monuments. Au fil des millénaires, en raison de la précession des équinoxes, Tubane a lentement cédé sa place à d'autres étoiles en tant qu'étoile polaire, comme Kochab de la constellation de la Petite Ours ou encore Ferkab aussi dans la Petite Ours. Finalement, vers l'an 500 de notre ère, c'est Polaris qui a commencé à émerger comme l'étoile polaire dominante, en raison de la trajectoire de la précession des équinoxes. Polaris a lentement glissé vers le pôle nord céleste et est devenue l'étoile principale, pointant vers le nord. Sa position stable et surtout son éclat assez distinctif ont fait d'elle un guide précieux pour les marins et les explorateurs du monde entier. Par contre, dans 8000 ans, c'est Deneb de la constellation du Cygne, et puis dans à peu près 12000 ans, ce sera la très brillante Vega de la constellation de la Lyre qui seront à leur tour, les étoiles polaires boréales. Dans l'hémisphère sud, il y a peu d'étoiles visibles à l'œil nu près du pôle céleste. L'étoile polaire australe, actuellement, c'est Sigma Octantis, aussi appelée Polaris Australis, c'est-à-dire la polaire australe. Alors, comment est-ce que vous pouvez repérer la petite ours dans le ciel ? Ce ne sera pas trop difficile si vous partez de la grande ours. Bon, la grande ours, c'est donc cette grande casserole. Vous allez repérer le bord de la casserole, celui opposé à la queue. Et vous allez reproduire ce segment vers le haut de la casserole 5 fois. Et vous arriverez sur Polaris.